Alors, rapidement, le plan de ma présentation. Je vais donc parler de mon sujet de doctorat, qui est la biotechnologie source verte. Finalement, je rattache, c'est très multidisciplinaire comme thèse, je rattache plusieurs, finalement, concepts de différents domaines à l'intérieur du droit, mais aussi extérieur au droit, comme on va pouvoir le voir. Donc, mise en contexte, hypothèse, cadre théorique, définition, entrevue qualitative. Il y a quelques entrevues aussi que j'ai faites dans le cadre de ma thèse. Quelques obstacles. On est tous des étudiants ici, alors je trouvais ça intéressant peut-être de partager un peu mes peines et misères et les choses plus réussites jusqu'à maintenant. Et puis, ce qui me reste à faire, la suite. Et ça, c'est l'édifice de mon doctorat que vous pouvez voir, qui, j'espère, ne s'écroulera pas comme la tour de Babel. Donc, mise en contexte. Pourquoi open source? On vit à l'ère de l'information. D'ailleurs, je pense que ma présentation colle bien avec la façon dont le panel précédent a fini. On est à l'ère de l'information, comme on l'a vu. L'influence politique, économique et socio-culturelle de l'information et donc de la propriété intellectuelle est énorme. La valeur des grandes opérations du monde contemporain est déterminée en grande partie par leur portfolio de propriétés intangibles, allant des formes les mieux définies de propriétés intellectuelles, comme par exemple les brevets et les droits d'auteur, aux moins tangibles des intangibles, comme les secrets commerciaux et les marques commerciales. Cependant, que relativement à cette prise d'importance, l'institution que constitue la propriété intellectuelle est devenue significativement plus controversée au courant des 30 dernières années. L'extension de la propriété intellectuelle à des nouveaux domaines d'innovation, le développement de nouveaux régimes de propriété sui generis, l'établissement disputé de standards minimums de propriété intellectuelle au niveau international, et ça aussi, on l'a vu dans la session précédente avec la présentation de Nicole, comment cette imposition par l'entremise des APIC était perçue dans les pays en développement. Donc, finalement, toutes ces choses. Et aussi, entre autres, le développement en parallèle de l'Internet et des technologies de l'information ont amené les chercheurs à questionner la pertinence et l'adéquation des différents composants et objectifs de la propriété intellectuelle dans notre société moderne. Et ça, je dirais que c'est spécialement visible dans le domaine des biotechnologies. Une image vaut mille mots, mais je dirais que, dans le domaine des biotechnologies, la critique au niveau académique est presque généralisée de la propriété intellectuelle, pour toutes sortes de raisons. Des raisons, je dirais, philosophiques, morales, théologiques d'abord. On trouve que breveter le vivant, et par là j'entends breveter des gènes humains ou breveter même des animaux, on considère que c'est de l'instrumentalisation, que ça peut mener à l'instrumentalisation de l'homme. On considère aussi, pour certains motifs religieux, que finalement, il y a quelque chose de sacré dans le corps humain et ses composantes, donc qu'on ne devrait pas admettre qu'on puisse s'approprier ces choses-là. Il y a d'abord ces raisons-là. Il y a des raisons aussi, je dirais, plus techniques, plus pratico-pratiques. On va dire, entre autres, que le brevet, la raison principale, qui est une raison instrumentale, on dit on donne des brevets pourquoi? Pour stimuler l'innovation. Parce que si on ne donnait pas de brevets, puis personne n'inventerait, la science ne progresserait pas. On peut questionner ça dans le domaine des biotechnologies, puis se demander, est-ce que les brevets accomplissent vraiment le rôle de stimuler l'innovation ou est-ce que parfois ils ne la freinent pas plutôt? Il y a beaucoup de critiques à cet effet-là, comme quoi les brevets ralentiraient l'innovation, empêcheraient les chercheurs de s'intéresser à certains domaines de recherche, influenceraient le choix des domaines de recherche par les chercheurs, encourageraient une culture de secret, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce qu'en parallèle à ça, il y a toute une espèce de politique de commercialisation qui s'est installée, surtout en Amérique du Nord dans les 20 dernières années, qui fait que maintenant, les brevets, c'est plus seulement une question du secteur privé. Même dans le secteur public, la culture universitaire, maintenant, pour un scientifique, il doit avoir des brevets dans son CV s'il veut avoir des fonds de recherche. Ça fait partie des choses auxquelles on s'attend, et on s'attend à ce que s'il peut commercialiser une invention, il le fasse. Donc, les règles du jeu ont aussi changé là-dessus, et ça a amené beaucoup de gens donc à prétendre que les brevets causerait des problèmes aussi, entre autres, d'accès aux nouvelles technologies en santé. On peut penser, par exemple, à l'affaire de Myriad Genetics, qui a été très, très diffusée. Myriad Genetics, c'est une compagnie qui a obtenu un brevet sur les gènes BRCA1 et 2, qui sont les gènes de prédisposition au cancer du sein. Maintenant, avec ces brevets-là, la compagnie a exigé que tous les gens qui voulaient faire passer des tests de prédisposition au cancer du sein doivent leur envoyer les échantillons à Salt Lake City pour qu'eux-mêmes puissent faire passer le test. Ça a causé beaucoup de problèmes, entre autres parce qu'il a été soulevé par certaines personnes qu'il y avait d'autres moyens de faire le test qui étaient plus efficaces que ce que Myriad proposait, mais qu'on ne pouvait pas le faire à cause du brevet de Myriad. Il y a aussi d'autres questions qui ont été soulevées par rapport, entre autres, à la confidentialité de l'information, à la protection des patients, surtout en Europe, où on a dit pourquoi est-ce que nous, en Europe, on devrait aller envoyer nos échantillons aux États-Unis pour se faire tester. C'est pas sécuritaire du tout pour les participants. Les participants aussi se sont sentis lésés parce que ils se sont dit, bien, écoutez, le gène de BRCA1, le gène de BRCA2, comment est-ce qu'une compagnie peut se l'approprier? C'était comme pour eux la façon dont ils le percevaient, à tort ou à raison, comme si on s'appropriait un peu de leur personne. Mais il faut comprendre aussi que ces affaires, comme l'affaire Myriad, ne sont pas généralisées. Reste que les quelques affaires de la sorte qui se sont passées ont été très médiatisées et ont vraiment influencé l'opinion publique. Maintenant, quand on regarde à ce que j'appellerais l'évidence, le data, finalement, on se rend compte, les données empiriques, qu'il y a beaucoup des craintes qui ne sont pas vraiment justifiées par les données qu'on a jusqu'à maintenant. On voit aussi qu'il y a quand même certains problèmes, entre autres un problème définitivement d'accès aux nouvelles technologies qui pourraient être causés par les brevets. D'où l'idée de chercher des solutions alternatives, pas forcément pour balayer le système des brevets puis faire autre chose, mais peut-être pour lui donner une petite poussée pour aider le système à finalement rencontrer les objectifs qu'il devrait pouvoir atteindre. Une de ces solutions que moi je trouvais particulièrement intéressante puis qui me tentait de voir plus en profondeur, c'est ce qu'on appelle open source. Qu'est-ce que c'est open source? Bon, ça se traduit par science ouverte en français, ça sonne un peu bizarre, mais c'est comme ça. Open source, bien, probablement mes collègues en technologie de l'information sont assez familiers avec ça. Open source, c'est finalement un concept qui provient de la culture des hackers. Encore là, il y a une traduction française amusante, on parle de bidouilleurs en français. Je pense que je vais garder l'expression hacker, je la trouve plus à propos. Et donc, cette culture hackers-là est une culture, finalement, de personnes inventives qui, dans leur laboratoire de recherche dans les années 70, finalement, aimaient bien inventer des choses, créer, et se souciaient très peu de la propriété sur leurs inventions. On inventait des nouveaux programmes, on se les échangeait, et ça marchait très bien jusqu'au début des années 80, cette culture-là. Et là, au début des années 80, ben, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire de l'argent avec les ordinateurs, les noyaux centraux d'ordinateurs et toutes ces belles choses-là. Et donc, on a dit, on va mettre des droits d'auteur là-dessus et vous aurez plus accès au code. Et le code est ce qui est nécessaire pour travailler sur une composante informatique, que ce soit pour l'améliorer, la remplacer, la changer. On a besoin d'avoir accès à ce code-là pour pouvoir aller dans les logiciels. Et donc, il y a une personne qui s'appelle Richard Stallman qui a dit, moi, ça ne m'intéresse pas d'acquérir des droits d'auteur. C'était quelqu'un, il faut comprendre que c'était quelqu'un qui venait d'une culture universitaire. Il a été probablement influencé par les normes académiques de l'époque, qui était aussi la culture universitaire on échangeait nos résultats, on s'aidait entre collègues. Et je pense que cette influence de la culture universitaire l'a définitivement orienté vers la décision qu'il a prise. Lui, c'était donc un hacker, et c'était un hacker très talentueux, donc il pouvait se permettre finalement d'aller de son bord puis de dire ben, qu'il m'aime me suivre. Et il a donc décidé de développer son propre système et de rendre ce système-là complètement ouvert, c'est-à-dire accessible à tous. Et c'est comme ça que le mouvement open source a démarré dans le domaine des technologies de l'information, lentement mais sûrement. Éventuellement, il y a eu un autre hacker du nom de Linus Torvalds qui, lui, a décidé de développer un noyau central, le noyau Linux. Et là, on sait la suite de tout ça. Ça a été un noyau qui a été extrêmement, d'un point de vue commercial, une réussite complète, à un point que ça a vraiment, c'est devenu un concurrent des géants de l'informatique tels que Microsoft. Donc, le projet open source a été très réussi dans le domaine de des technologies de l'information. Ça a très bien marché. Une des questions que je me pose, c'est est-ce que ça peut marcher dans le domaine des biotechnologies? Et si oui, qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc, l'adoption de modèles ouverts collaboratifs permettrait, c'est mon hypothèse, de développer une société scientifique plus vertueuse et d'optimiser l'efficacité du système des brevets dans le domaine des biotechnologies. On va venir à la partie plus vertueuse, qui vous rend peut-être curieux, plus que cette histoire d'efficacité du système des brevets dont j'ai déjà parlé. Pourquoi plus vertueuse? Ça va avec mon cadre théorique. Mon cadre théorique, finalement, est composé de deux choses complètement différentes, mais qui avaient un lien évident qui n'avait jamais été fait entre ces deux choses-là. Donc, je me suis dit, on va faire un lien. La sociologie des sciences, les normes des sciences proposées par Robert Merton. Robert Merton, c'était un sociologue des sciences qui, dans les années, ça fait déjà pas mal de temps, je pense que c'était dans les années 40-50, a développé certaines normes qui résumeraient finalement la façon d'agir des scientifiques, surtout dans le milieu des sciences académiques. Il a dit qu'il y a une certaine culture normative qui fait que les scientifiques agissent d'une certaine façon. Et cette culture peut se résumer par certaines normes sociales, entre autres la norme d'universalité, la norme de communisme, la norme de désintérêt. Bref, il y a 4 ou 5 normes comme ça qu'il a développées pour résumer cette culture académique. Et c'est là que moi, je vois vraiment un rattachement, entre autres, avec la source ouverte. Et ce rattachement-là avec la source ouverte, la deuxième partie de ma thèse, c'est de, en lisant beaucoup les documents émanant du milieu des technologies de l'information, on se rend compte que le phénomène open source, c'est pas seulement un phénomène purement technique, mais c'est un phénomène qui a vraiment des répercussions sociales. Et il y a des études qui ont été faites, quel genre de personnes sont intéressées à des projets open source, qu'est-ce qu'on retrouve chez ces gens-là, qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce qu'on peut développer chez eux. Et moi, je propose que ça pourrait aider à développer une culture scientifique plus vertueuse. Pour ça, je me base sur une théorie de l'éthique de la vertu qui a été surtout développée par Alistair McIntyre et Martha Nussbaum. Qu'est-ce que c'est, entre autres, l'éthique de la vertu? Je vais le résumer plus ou moins rapidement, sinon je vais complètement briser mes délais de temps. L'éthique de la vertu, plutôt que se baser sur des règles déontologiques ou sur des règles conséquentialistes, on va plutôt s'intéresser aux caractéristiques de l'agent, de l'acteur. On va se dire, ce qui est important, ce n'est pas tellement qu'il ait suivi une règle moralement valable ou que ses actions aient amené des bonnes conséquences. Ce qui est important, c'est que l'individu a agi de façon vertueuse. Il y a des modèles de vertu qui ont été développés, qui sont très différents. C'est Aristote et Platon qui ont développé les premiers modèles de vertu et de caractéristiques vertueuses. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que finalement, le phénomène open source pourrait aider les gens, constituerait une pratique qui permettrait aux gens de développer des caractéristiques plus vertueuses et donc d'atteindre une société scientifique, donc non seulement plus vertueuse, mais aussi en accord avec ses propres normes sociales. Bon, comment je me propose de démontrer ça? Évidemment, retournant en arrière, ça, avant de commencer à parler de sources ouvertes dans le milieu, dans le domaine des biotechnologies, un des obstacles les plus importants que j'ai rencontrés, c'était que, contrairement aux technologies de l'information, ou open source, ça veut dire quelque chose de très précis. Open source, dans le milieu des technologies de l'information, c'est facile. Il y a ce qu'on appelle la open source definition. Et si on rencontre cette définition-là, il y a une organisation qui va vous accréditer, qui va dire qu'il s'agit d'un projet open source. Il y a aussi le GNU Manifesto, qui a été rédigé par Richard Stallman, qui, d'un côté, je dirais, plus social, résume aussi très bien la philosophie derrière open source. Maintenant, en droit des biotechnologies, il faut comprendre que l'expression source ouverte open source est rendue très in ces temps-ci. On essaie de la mettre à toutes les sauces. On entend IBM dire qu'ils sont rendus open source. On peut se permettre de se poser certaines questions là-dessus. Donc, le problème, c'est que je rencontrais toutes sortes de projets et moi, j'étais vraiment intéressé à regarder les projets pour voir ce que ça donnait. Et là, je me disais, mais là, si c'est ça, open source, je comprends pas ce que c'est. Donc là, il a fallu que je développe ma propre définition. J'ai décidé, plutôt que de parler de source ouverte, de parler de modèle ouvert collaboratif et de finalement m'inspirer, entre autres, de l'open source definition et du GNU Manifesto, mais pour faire un document qui collerait plus à la réalité du domaine des biotechnologies. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis finalement de pouvoir catégoriser un peu mieux mon sujet et mes différents projets. J'ai effectué des entrevues. L'idée, c'était vraiment, même si ma thèse reste quelque chose de très théorique et de très fondamental, je voulais quand même avoir quelques données empiriques, surtout pour voir justement ce que les gens pensaient de mon idée open source vertu et aussi de voir un peu comment justement, quel genre de personnes étaient intéressées par la culture open source dans le milieu des biotechnologies. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au Canada, il n'y a pas tellement de projets open source biotechnologie, mais il y en a quelques-uns et j'ai pris chacun de ces projets-là, je pense qu'il y en a 7 ou 8, et j'ai été rencontrer les chefs de ces projets-là pour justement leur poser une série de questions, savoir pourquoi ils avaient décidé de partir ces projets-là, est-ce que ça marchait bien, qu'est-ce que ça avait fait, quel genre de personnes étaient intéressées à collaborer avec eux et qu'est-ce que ça avait apporté à ces gens-là de collaborer avec eux. Et donc, maintenant, je suis au stade où je suis en train de faire la rédaction. Les entrevues sont presque terminées et je suis en train de rédiger mon cadre théorique c'est une partie particulièrement épineuse de ma thèse. Quelques obstacles, j'avais parlé que j'allais partager un peu mes peines et mes chagrins avec vous. En voici quelques-unes. Définition du projet de recherche, j'ai dû perdre un bon 6 mois, un an là-dessus. C'était très difficile. Je savais dès le début que je voulais parler de source ouverte. Je savais juste pas de quel côté prendre les choses. Et donc, trouver l'angle que je voulais, la théorie, aussi l'approche théorique que je voulais. Je dirais que j'ai perdu un an à juste faire des lectures. Il y a certaines des lectures que j'ai faites. Je me suis tapé des bouquins de philosophie de 400-500 pages que je n'utiliserai jamais. Mais bon, pour ma culture personnelle, c'était probablement très bien. Les entrevues, c'est sûr que le challenge, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Quand il y a juste une dizaine de projets intéressants au Canada, je ne voulais pas partir dans une grosse série d'entrevues partout à travers le monde. Je n'avais pas les fonds non plus. Donc, je voulais que chaque personne à qui je demande accepte. Et c'était évidemment un gros challenge. Ça a finalement bien fonctionné. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Les gens ont été très ouverts aussi. J'ai été très surpris parce que j'ai rencontré quand même des gens du domaine de l'industrie. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus une culture de secret, mais ça n'a pas été le cas. Donc, ça a été très intéressant. Motivation. Un des gros enjeux, je pense, à l'Université McGill pour ce qui est de la thèse de doctorat, c'est l'encadrement. Le problème, contrairement à l'Université de Montréal, où il y a toutes sortes de séminaires, de théories et des choses comme ça, à un point que vous en avez peut-être trop, bien, à McGill, il y a un seul cours qui est obligatoire. Et après ça, on est un peu laissé à nous-mêmes. Si on veut en prendre plus, évidemment, on a le droit. Mais bon, évidemment, quand on vous dit que vous avez juste un cours à prendre, la plupart des gens n'iront pas en prendre 4-5, à moins qu'ils soient vraiment désespérés. Donc, la motivation, c'est de se retrouver tout seul, puis bon, avec son directeur de thèse, évidemment, et d'avancer tout le temps, donc c'est ça. Rédaction, c'est longtemps, je pense que tout le monde le sait. Donc, c'est mes quelques obstacles. La suite, bon, rapidement, écoutez, comme je vous dis, je suis en rédaction, analyse des entrevues, dépôt de la thèse que j'espère faire cet été, défense, recherche d'emploi, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté et remerciements aux gens qui m'ont aidé dans ma thèse. Voilà. Merci beaucoup.